radyosunda 88.1'desiniz.
Campus Bordeaux.
98.1. Campus Bordeaux.
88.1.
Café Campus, 12h-14h, Mélissa Mourou.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Sport Campus. On est en direct sur le 88.1, on est mercredi et c'est donc la reprise de votre émission 100% sport hebdomadaire. Cette année, nouvelle équipe, on accueille Pauline notamment au micro. Salut Pauline.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Et on est toujours avec Louis le fidèle. Salut Louis.
Comment ça va?
Ben ça va bien et toi?
Ça va mieux que lundi déjà.
Et oui, lundi tu étais malade.
Ouais, non, dimanche ça allait très bien et puis le lendemain je me réveille, fièvre et puis la toux absolument immonde. Bon là en tout cas ça va mieux déjà.
Bon, en tout cas, ta voix fait très radiophonique aujourd'hui, donc ne t'en fais pas.
C'est parfait. Puis après, j'enchaînerai sur du doublage, donc tout va bien.
Et puis j'ai dit nouvelle équipe, mais pas tant que ça, puisqu'il y a toujours Nicolas au micro. Salut Nico.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, pour Sport Campus, je vous propose un programme divers et varié. On va d'abord commencer par une actualité locale, mais pas que, puisqu'elle est aussi nationale. Pauline, tu t'es rendue au Décastar.
Oui, c'est ça, c'était le week-end du 23-24 septembre.
Alors, on aura l'occasion d'écouter une sorte de micro-trottoir avec des interviews d'athlètes que tu as pu rencontrer, il y en aura plusieurs. Et puis, à la suite de ce retour sur le Décastar, je vous propose un débat autour des JO. Vous le savez, les JO arrivent à grands pas en France, donc ce sera à Paris, mais pas que, on aura l'occasion d'en reparler l'été prochain en 2024. Et puis aussi, autre événement important et qui s'est déroulé ici à Pessac sur le campus, c'était la Coupe du Monde de rugby, mais universitaire, il n'y a pas que la Coupe du Monde générale, et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez pu les croiser, moi je les ai aperçus quelques fois. On ne pouvait pas trop les rater, hein. Ils sont assez grands, assez immenses.
Non. Puis quand on allait manger, effectivement, on les voyait passer aussi, parce qu'ils prenaient plus ou moins aussi les mêmes endroits. Donc,
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'effervescence sur le campus, et moi j'ai entendu pas mal crier aussi. Puisque...
Ah oui, je faisais du basket à côté, on les entendait hurler pendant les matchs, donc non, c'était pas mal.
Il y avait une très très bonne ambiance, je les ai croisés dans le bus, très très fun.
Donc ce sera l'occasion d'en reparler. On va commencer cette émission tout de suite avec un petit titre et puis juste après, on revient avec toi Pauline pour parler du Décastar.
Sensational song.
dors un peu tordu. Tes bras qui rêvent dessinent une avenue. Dérive loin vers l'aube. Les racines s'en mêlent, ton corps s'en retenue. Si je me réveille à côté comme à peu près, mille et un sommeil peupleront mes nuits de craie. Dans tes feuilles perchées, tu j'embrasse ton corps de naufragé. Réside dans ta pupille une humide argile fertile qui t'habille. Si je dorme. J'ai maté l'orage qui vient à la lisière au pied d'un grand orme. Enterrer les démons venus d'hier. Si je me réveille à côté comme un
Campus Bordeaux 88.1.
Il est 13h10 et vous écoutez toujours Sport Campus. On est en direct et tout de suite on retrouve Pauline. Pauline, tu t'es donc rendue au Décastar. C'était le week-end du 23 et 24 septembre. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur l'événement?
Moi, c'était déjà la première fois que j'allais au Décastar à Talence. Déjà, je trouvais que l'ambiance était très bienveillante. Il y a une proximité avec les spectateurs qui est très agréable. Il y a même une épreuve le second jour où, pour le saut à la perche, des spectateurs ont été autorisés à aller sur, la piste d'athlétisme pour être au plus proche des sportifs. Et l'ambiance qu'il y a autour, la bienveillance qu'il y a dans cette compétition sportive est vraiment géniale.
Alors, tu as pu t'entretenir avec quelques athlètes, réaliser quelques interviews, interviewer aussi quelques visiteurs. Et le premier interviewé, il s'agit de...
De Mackenson. Mackenson, qui a gagné la première journée du Décastar et qui, au final, a gagné complètement le Décastar. Et c'était un tel engouement autour de ses performances qu'à la fin, carrément... je crois qu'il a raté à 17 points sa qualification pour les JO. Et à la fin, sur la dernière épreuve, il y avait carrément des athlètes qui se sont portés volontaires pour être le lièvre, pour le pousser en fait, et à avoir des performances de malade. Et à quelques microsecondes, il a raté les points et sa qualification. Et non, c'était très intéressant de voir tout l'engouement qu'il y avait autour de lui. Non, c'était dingue.
Nicolas.
Est-ce qu'on peut préciser ce que ça veut dire être le lièvre pour les gens qui ne connaissent pas du tout?
Le lièvre, c'est par exemple, là, c'était le 1500 mètres. Cette épreuve, donc il y a 10 épreuves, cette épreuve, ce n'était pas forcément celle que Mackenson préfère. Mais en plus, c'était la dernière épreuve d'un week-end hyper intense, donc il était complètement rincé. Et le but du lièvre, c'est de motiver à fond le leader et ils s'enchaînent.
Courir assez
donc
vite.
Il y a d'abord un premier coureur qui le tire à fond. Je crois que c'était l'Américain. Ouais. Un des Américains qui l'a tiré à fond. L'Américain a abandonné la course. Il a complètement arrêté. Il y a un Suisse qui a repris la course et qui l'a tiré. Après, c'était l'Allemand qui a fini deuxième, je crois. Il y a l'Allemand qui l'a complètement tiré jusqu'à la fin. Et c'était... C'est un sport individuel, mais c'était tellement un travail d'équipe à la fin.
C'était tellement un engouement autour de lui, c'était incroyable, franchement.
Et s'il avait réussi la qualification JO, je pense que ça aurait été la fierté de tout le monde. Enfin,
ça passe à rien, hein, franchement.
Il
n'y
a pas d'autres courses avant les JO pour se qualifier
Si. Il y a eu par exemple les championnats du monde.
Non, mais après, là.
Si, il y en a d'autres, parce que c'est un cycle.
C'est pas fini pour lui.
Non, ça reprend. En fait, c'est tous les ans, il y a un nouveau cycle de décathlon partout dans le monde. Et donc, le cycle va reprendre en janvier. Et en fonction des quotas, parce que pour être qualifié au JO, il y a des quotas. Et en fonction des performances des athlètes, il y en a qui seront qualifiés ou non.
Et s'il est passé près là, dans pas longtemps, à mon avis, évidemment.
Ouais. Surtout que Kevin Mayer était absent puisqu'il était blessé. Donc il y a Kevin Mayer et il y a Mackensen.
C'est les deux premiers.
C'est les deux premiers.
Un peu de déception quand même hein, pour ceux qui attendaient Kevin Mayer à talent, c'est qu'on n'a pas pu le voir cette année.
Ouais, mais mine de rien, là, moi, cette compétition-là m'a prouvé qu'il n'y a pas forcément besoin de lui pour que ça soit quand même un truc de fou, quoi. Franchement,
si on veut avoir une médaille, oui, quand même.
Mais quand même, évidemment, pour c'est sûr que ça c'est une chance de médaille. Mais là, j'ai pas ressenti, genre, il n'y a pas Kevin Mayer, ça va être nul. Aucun moment, j'ai ressenti que son accent, c'était un problème.
Pour
quoi.
Le décastard.
Oui, pour celui-là. Non, je parle pas en termes de médaille.
Il y a eu de la surprise, mais pas de déception.
Non.
C'est toujours spectaculaire.
Absolument pas, non.
D'ailleurs, on rappelle que le décastard, hein, c'est le décathlon. D'ailleurs, êtes-vous capable de citer les 10 épreuves au compteur?
J'en ai quelques-unes.
J'en ai quelques-unes aussi. Je sais pas si je les ai toutes, par contre. Mais...
T'as le saut à la perche.
Ouais.
Le saut en hauteur.
Ouais.
T'as le. Le saut en longueur.
Et là,
c'est ça. T'as le saut de haie, alors c'est le 110 mètres haie ou 100 mètres haie.
Non, c'est 110.
110. Ensuite.
Y a pas un 800 mètres aussi, non?
T'as le lancer du poids. T'as le lancer du poids.
Oui.
Tu dois avoir le javelot aussi.
Le javelot, ouais.
Et après, ben, y a le 1500.
Ouais.
Le 400.
Après, ouais.
Mais y a le 400?
Oui, je viens de le dire.
Non, pardon. Non, j'ai entendu 1500, c'est pour ça.
Y a le 400, non?
Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a pas le 400 aussi ?
Il y a le 100.
Il y a le 100.
Et le 100.
Oui.
Il en manque deux, non ?
Ah bah on a
il
pas...
manque un.
Il en manque un.
Ah là là. Ah là
c'était
là.
Lequel ?
Le disque.
Ah, le
disque.
Oui,
le lancer disque. Bien. Voilà, bravo.
Et oui, on récapitule. Donc le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres le premier jour. Ensuite, c'est le 110 mètres et le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer de javelot. Et pour finir, le deuxième jour, quand on est rincé et qu'on n'en peut plus, le 1500 mètres. Mm. Donc ça fait 10 au total. Hein, un sacré truc, hein, c'est vrai que...
Pour les hommes.
Pour les hommes.
C'est 7 pour les femmes.
Oui,
oui c'est 7, on dit...
Heptathlon.
Heptathlon. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez. Ça devient de plus en plus médiatisé quand même, le décathlon. Mais
surtout en France.
Parce qu'il y a Kevin Mayer.
Qui a une aura médiatique particulière. Alors, sans plus tarder, je propose qu'on écoute ce retour du Décastar. Donc, ce sont des interviews d'ambiance situationnelle, comme si on y était présent. Et on commence tout de suite avec l'interview de Mackensen.
Félicitations pour aujourd'hui, pour la première place, pour le premier jour du Décastar. Es-tu content de ta première journée? J'ai entendu dire que tu n'étais pas encore satisfait. Pourquoi ça?
J'ai envie de dire que je suis le genre de profil qui est un éternel insatisfait. Mais en même temps, c'est ce qui me permet aussi de me surpasser, de chercher beaucoup plus que ce que je peux faire. Mais d'un autre côté, je reste frustré, surtout parce que je sais que voilà, j'ai déjà fait mieux et que je peux faire mieux. Mais ça n'enlève en rien ma joie de ce résultat de la première journée. Donc là, je suis parti sur des bonnes bases et demain, la suite.
T'aurais voulu améliorer quelle performance ?
Un peu partout. Juste un peu mieux de ce que j'ai fait. Mais je reste quand même vraiment satisfait, surtout le poids, où j'ai vraiment, vraiment bien amélioré mon record. Et vu que ça faisait un moment que je n'avais pas ressorti, là, ça a fait beaucoup de bien et j'ai su... continuer derrière.
Et pour réussir aussi bien aujourd'hui, niveau entraînement, comment ça se passe? Tu travailles plus les difficultés, tes points forts. Comment t'organises une journée type d'entraînement et avec ton coach, comment vous en venez à avoir ce genre de résultat?
Je vais répondre à la première question. On s'est surtout basé sur des, c'est bizarre à dire, mais sur des données. C'est-à-dire que, voilà, on a fait des tests de force, des tests d'élasticité, de souplesse, comme, voilà, plusieurs tests comme ça. On a comparé aussi les différents types de compétitions que j'ai pu faire au fur et à mesure de la saison. Et en fait, nos séances se sont basées sur, il va falloir qu'on bosse plus ça, c'est-à-dire plus de force pour arriver à être bien plus régulier sur la course, sur le placement, etc. Donc voilà, on s'est basé sur nos données, sur mon profil. On a tout regardé dans le détail. Et donc on a combiné vraiment du travail force en muscu et la technique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a une base bien plus solide qu'avant. Ça c'est aussi avec l'aide de mon préparateur physique et puis mon coach. Hein, deux acteurs très importants. Et là maintenant, on a une bonne régularité. Là, les bases ont été bien travaillées aujourd'hui, là, c'est bon. Voilà.
Et ton programme ce soir de récupération? Match de rugby?
Pas du tout. Non, malheureusement, mais non, là c'est vraiment la priorité, c'est la récupération du corps. Bien se poser, faire redescendre un peu toute la pression. Même aussi le positif, faut tout remettre, on va dire, à zéro. Donc ça va passer par du kiné, du froid, bien manger, et puis une bonne douche, se poser tranquille et ne penser à rien. Peut-être reparler un peu de la journée, mais sans plus, quoi. Et surtout dormir. Voilà.
Donc tu penseras à revoir un peu la compétition demain soir quand ce sera fini?
Voilà, c'est ça. On en rigolera, on en reparlera autant qu'il faut demain soir après le 15.
Et tu le sens comment pour demain?
Je le sens bien. Comme aujourd'hui, je me sentais très bien parce que je me sens bien physiquement. Ah, j'ai des petits bobos comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça qui fait que je vais m'arrêter là. Okay.
Merci beaucoup, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Merci, au revoir. Bonjour Basile.
Bonjour.
Nous sommes au deuxième jour du Décastar. Comment vas-tu?
Je vais très bien. J'aimerais avoir un peu moins mal à mon ischio, mais ça va.
Oui, j'ai vu que hier tu as dû abandonner la dernière épreuve. Enfin, tu as concouru, mais tu n'as pas pu faire la course en entier. Ce matin, ça a été pareil. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il, Basile?
En fait, j'ai une petite lésion au niveau de l'ischio-jambier sur mon dernier saut en hauteur. Sur l'impulsion, en fait. Donc j'ai eu une grosse pointe dans l'ischio qui m'a arrêté net, en fait, parce que j'ai pas pu finir mon saut. Heureusement, grâce à l'encadrement du Décastar, j'ai pu passer très vite des examens et pour connaître la gravité de la blessure, savoir si je pouvais continuer ou pas. Et malheureusement, il s'avérait qu'il y avait une lésion, donc ça veut dire que le processus de récupération, c'est au moins 2 à 3 semaines. Et à partir de là, ça met fin au décathlon. Et voilà, donc beaucoup forcément de la frustration, de la déception. J'ai quand même pu prendre part au lancer de disque ce matin. Oui. Bon, c'est de me faire plaisir, puis honorer quand même ma présence sur le meeting. C'est, si je peux faire une épreuve, même en étant blessé, et que ça ne se ressent pas sur ma performance, voilà, faut honorer et la faire. Donc voilà.
Et là, niveau douleur?
C'est un petit peu comme hier, de toute façon, le temps que la lésion se résorbe, voilà, c'est. Au niveau douleur, je le sens quand je trottine à 4-5 km/h, donc je vais même pas tester de courir plus vite. Et bon, au final, la décision elle s'est prise assez rapidement. Quand tu es plus capable de ne serait-ce que de courir en footing, naturellement, c'est même pas la peine d'espérer courir à 70%. Donc, voilà.
Donc là, le prochain objectif, c'est de te soigner pour l'année prochaine?
Exactement, oui, c'est ça. C'est couper un petit peu parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, je me suis fait opérer en février et ça a été une année où j'ai dû courir en plein dans l'incertitude, sans savoir quand c'est que j'allais pouvoir me réentraîner complètement, sans savoir non plus quand c'est que j'allais pouvoir faire une compétition, même un bout de compétition comme aujourd'hui. Et donc, en fait, depuis mi-mai, fin mai, je cours un petit peu après ça et voilà, bon. Le mal d'aujourd'hui, c'est la petite blessure, mais le bien, c'est que j'ai pu faire quand même 4 épreuves à un certain niveau. Je manque encore de rythme, mais il y a du positif quand même à tirer de cette saison. Et voilà, l'objectif, c'est régénérer complètement le corps et l'esprit pour 2024, voilà.
Okay. Donc là, tu restes pour soutenir les coéquipiers ?
Exactement, ouais. Exactement. Bah, y a de tout. Il y a des gars qui sont en train d'exposer leur record. Il y en a qui sont un peu plus dans le dur, mais qui veulent quand même finir pour terminer la saison sur une bonne note. Donc voilà, on se soutient. Bah, des fois, c'est les autres qui se blessent et nous, on est sur le terrain. D'autres fois, on se blesse et c'est les autres qui y sont. Donc voilà, chacun son rôle et on essaie de s'entraider comme ça.
C'est une véritable équipe, même si c'est un sport individuel.
Oui, complètement. On parle pas forcément beaucoup parce que des fois il y a le problème de la barrière de la langue, mais on se comprend. Enfin, le décathlon, c'est une épreuve vraiment très compliquée dans l'athlétisme, très difficile. Mais elle est très hyper enrichissante sur le plan humain, sur se connaître soi. Et donc voilà, c'est important de pouvoir se soutenir, d'avoir une petite tape sur l'épaule, d'avoir un bon mot à un moment donné pour un gars qui vient de rater une épreuve, c'est important.
C'est l'esprit du sport.
Exactement.
Merci beaucoup, Basile.
Merci à toi.
Merci. Donc aujourd'hui on est à la seconde journée du Décastar. Nous venons d'assister au saut à la perche masculin où Baptiste a remporté la compétition, enfin cette épreuve-là. Vous étiez là hier déjà ?
Alors non, je suis venue aujourd'hui et justement j'étais venue spécifiquement pour voir les dernières épreuves et pour découvrir un peu les athlètes parce que je les connaissais pas du tout et on les voit d'habitude à la télé et donc là ça change vraiment. En plus il fait super beau aujourd'hui donc c'est très très plaisant, il y a beaucoup d'ambiance et voilà, à découvrir l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de venir cette année.
Vous connaissiez déjà le Décastar ?
Alors je le connaissais de nom, oui, et j'avais déjà vu des épreuves à la télé et notamment des articles dans le journal. J'avais loupé Kevin Mayer l'année dernière, voilà. Et donc dommage qu'il soit pas là cette année, mais je pense que l'événement est toujours au top avec les athlètes qui sont là et qui donnent tout pour vraiment se dépasser.
Il aurait dû être là, il s'est blessé au talon d'Achille, malheureusement. Peut-être l'année prochaine. Après on le verra au JO de Paris.
On a vu à la Coupe du Monde, donc c'est pour ça on savait qu'il avait été blessé. Mais bon, je pense que la relève française est assurée. Ils sont quand même doués, hein, les Français qui sont là aujourd'hui. Donc on n'a pas à rougir de leur performance.
D'ailleurs, Mackensen est en train actuellement de gagner le décathlon. Il reste encore deux épreuves, donc c'est pas définitif. Voilà. Mais ça va être très intéressant.
Exactement, c'est de bon augure pour la fin de la journée.
Ok. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour. Nous sommes à la deuxième journée du Décastar. Nous venons d'assister au saut à la perche. Est-ce que c'est votre première venue au Décastar, au Décathlon?
Oui, de Talence. C'est la première fois que je viens à Talence pour le Décastar. Ça fait quelques années que je voulais venir. C'est là que j'ai une opportunité. Et c'est merveilleux. Il y a vraiment une ambiance extra. Donc c'est une belle valeur du sport qui est menée là. C'est chouette, très chouette.
Comment vous avez découvert le Décastar?
Je suis moi-même prof de PS et j'ai fait de l'athlétisme. Et par ce biais-là, je pense qu'il fallait un moment ou un autre que je vienne ici, comme j'irais ailleurs pour le jazz ou des choses comme ça, par exemple. Voilà.
D'accord. Et vous suivez autant le décathlon masculin que le heptathlon féminin ?
J'ai essayé de suivre les deux, mais il faut dire que la manifestation est prioritaire sur les hommes, en fait.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il y aura du changement d'ici là.
Il y a peut-être des choses à mettre en place. Mais non, sinon, c'est bon enfant, c'est vraiment très agréable. Je trouve il faut le renvoyer un petit peu tous les gens qui pensent que l'athlétisme, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de choses comme ça. Non, non, c'est bien, c'est très bien.
C'est un sport individuel, mais ça se pratique en équipe.
Absolument, absolument. Et sinon, on n'est rien, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs.
Merci beaucoup, passez une bonne après-midi. Merci, au revoir.
Au revoir.
Bonjour, on est au deuxième jour du Décastar. Vous êtes venu hier déjà ?
On est arrivé pour le saut à la perche aujourd'hui.
Ouais.
C'était sympa.
Ouais.
C'est sympa, ouais. Et on va suivre après le javelot féminin et le javelot masculin.
Donc vous suivez autant les épreuves féminines que masculines ?
Oui, exactement, oui. Après, on aurait bien voulu voir des courses, mais par rapport à l'organisation, on n'a pas pu venir, mais on aurait bien voulu voir des courses. Et on verra pas les courses de tout à l'heure parce qu'elles sont un petit peu tard.
Et toi, tu as regardé quelle épreuve ? Tu as apprécié regarder les épreuves ?
Ouais, c'est bien. Et j'aime bien regarder la perche aussi.
Ça, c'est super. Bravo.
Tu fais aussi de l'athlétisme ?
Non, mais j'aime bien.
Ouais. Bon. C'est merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport aux compétitions ? Vous suivez quel athlète aujourd'hui ?
Alors nous, on les connaît pas trop, mais on n'est pas assez calé.
Aujourd'hui, il y a Mackensen qui est à la tête, qui est leader. On a aussi Baptiste qui va sauter à la perche. Il est spécialisé en soie à la perche. Donc je vous conseille de regarder ses performances parce qu'on l'attend, impatiemment. Je sais pas, mais il est très attendu. C'est le spécialiste du décastar aujourd'hui.
Il n'était pas prévu aujourd'hui.
Alors il aurait dû venir, mais il s'est blessé au talon d'Achille, donc il ne pourra pas venir. Et comme ça, il se préserve pour les JO qui arrivent en juillet. Vous regarderez les JO ?
Bien sûr, on regardera les JO, surtout le saut à la perche.
Okay. Bon, merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir. So, today I'm with the Decathlon champion, world champion, Pierce Lepage. Hello.
Hello, how are you?
I'm fine, and you?
Doing well, yeah, having fun.
You're here to support your compatriot, Georgia?
Yeah, Georgia's here competing, my coach is here. Yeah. I was going to be here, but I didn't want to compete, so... You know, I thought I'd still come and have the trip and have a little vacation in France and watch, you know, the best athletes in the world compete. Okay.
For such a complete competition, how are the training sessions going? Do you prefer to improve your facilities or rectify your weaknesses? How do you work with your coach to prepare your competitions?
Yeah, I think for the last couple of years, it's just been honing down, kind of... our training schedule, just me with my coach, and how exactly we want to do training camps. 2 years ago, we went to a different training camp, and that's been working well for us. And the biggest thing for me is just staying healthy. I feel like if I'm healthy, I can score high points. So that's going to be another key at the start of the season. Just stay healthy, you know, and yeah, keep at it.
And you work a lot with statistics, no? Don't you?
My coach does all that. He gives me the workout, and I run it, and that's how it works, and he gets me in shape.
Okay. So how do you feel about the season ending perfectly for you because you win the world championships in Budapest?
No, the best. I think every athlete would want to win the world championship to end their season. So yeah, it just feels good. It feels good that I, just ready, you know, hopefully I can be Olympic champion.
You're going to have some rest, it's a big pause now for you.
I've already taken a little bit off, so I'm probably going to take a couple more weeks off, then get back into it, start slow, and, you know, World Indoors this year, Gotsis, then the Olympics, so just step by step.
So you're going to work for Olympic Games in July? Yeah?
Yeah, I'll be back here in Paris, and hopefully I get get some love from the French crowd, so yeah.
Okay, thank you very much. Have a nice day, and good luck for your compatriot for Georgia.
Yeah, thank you.
Campus Bordeaux. Radyosunda 88.1'desiniz.
13h30, on arrive à la mi-temps de cette émission et c'est le moment de débriefer un peu toutes ces interviews très denses qu'on a écoutées à l'occasion du Décastar. Alors la dernière interview, vous avez dû le constater, était en anglais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en français, Pauline ?
Oui, en fait j'ai interviewé Pierce Lepage, c'est celui qui a gagné le championnat du monde 2023 à Budapest qui avait lieu en août. Donc il n'a pas participé au Décastar puisqu'il était épuisé. Et donc j'ai pu parler avec lui pour savoir comment il allait se reposer. Comme il est canadien, il est venu aussi supporter sa compatriote canadienne qui participait aussi. Et je lui ai posé quelques questions pour savoir s'il allait se reposer, comment il allait se préparer pour les JO, s'il allait y participer, voilà.
Nicolas.
Et qu'est-ce qu'il a répondu alors ?
Il a répondu que là, il était en phase de repos, qu'il était encore épuisé et que c'était un peu un moment chill de venir au Décastar. Parce que oui, le Décastar est un moment assez agréable pour les athlètes qui concourent ou non. Et il a dit que ouais, dès janvier, il allait bien attaquer les entraînements pour les JO et éviter de se blesser. Comme on a pu l'entendre avec Basile qui s'est par exemple blessé au cours de la compétition, au cours du week-end.
Alors c'est pas toujours facile d'éviter de se blesser. Hein.
Exact.
Ouais, mais se blesser maintenant, c'est le pire moment.
Bah oui.
C'est le pire moment.
C'est pour ça que Basile a décidé d'arrêter et qu'il a raté la dernière épreuve. Il a raté. Il a été sur la ligne de départ, mais il n'a pas couru à la dernière épreuve du samedi. Et il n'a pas non plus participé à la première épreuve. Du samedi, du dimanche, et parce que justement il voulait pas se blesser.
Surtout qu'on imagine que pratiquer 10 sports à la fois, ça multiplie les chances de blessures et de sursollicitation de l'organisme et du corps. Exact. Et c'est souvent que les décathloniens sont blessés.
Oui. Chaque sport demande un effort différent et forcément ça appuie sur différentes parties du corps. Du coup, les blessures ne sont pas les mêmes pour les mêmes sports.
Et souvent, ils vont à la compétition même blessés. Hein. Kevin Meyer a déjà remporté plusieurs compétitions ou des médailles en étant blessé.
C'est ce que Mackenzie me disait.
J'aimerais être blessé comme lui, moi.
Ouais. Être blessé comme lui et continuer à concourir, franchement, j'aimerais bien.
Ouais, c'est ce que Mackenson me disait, c'est que chaque athlète vient avec ses bobos et que chaque athlète est blessé. Et au fur et à mesure de la compétition, on voyait que tel ou tel athlète avait du strap ou avait été massé. Il y avait des tables de massage un peu partout pour que dès qu'il y a une crampe ou quoi, il puisse être soigné le plus rapidement possible.
On peut se demander si c'est pas un peu de la folie ou du masochisme ou bien justement cet esprit de compétition qui permet de se transcender et de se dépasser aussi. Un peu des deux, moi, je pense.
Ouais, c'est ça.
Mais en tout cas, ça force le respect et l'admiration. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir des compétitions de décathlon, même le triathlon qui a que 3 épreuves, c'est déjà une prouesse en soi.
Ouais,
ça demande des efforts colossaux en permanence, donc du coup il faut être prêt quoi.
Et surtout il y a de la souplesse, de la rapidité, de la force, enfin, c'est dingue.
En tout cas, un grand merci Pauline de t'être rendue au Décastar et de nous avoir présenté ce reportage. On aura l'occasion de t'entendre dans Sport Campus tous les mercredis, nous parler sport, peut-être aller à la rencontre d'autres athlètes. Tout ça, c'est à venir. Alors, on va continuer à parler sport, bien évidemment. Cette fois-ci, on fait une petite parenthèse sur la Coupe du Monde universitaire de rugby. Déjà, première question, aviez-vous connaissance de cette compétition et l'avez-vous suivie?
Ouais. J'avais connaissance de la compétition, je l'ai suivi entre guillemets parce que j'avais mes cours, j'avais plein de choses à faire, mais j'ai pu regarder un peu qu'est-ce que ça donnait et en tout cas ce qu'on peut tous noter ici c'est qu'il y avait une ambiance de fou. On entendait du bruit de partout et en fait à ce moment-là on commençait à comprendre d'où ça venait et donc du coup ça ramenait encore plus de gens, donc il y avait vraiment un engouement autour de cette compétition qui était internationale pour le coup. C'est pas genre des universités qui s'affrontent entre elles, c'est vraiment il y avait des Canadiens, il y avait des Néo-Zélandais, il y avait des Australiens, il y avait plein de monde et c'était vraiment un petit regroupement international pendant une semaine, c'était plutôt sympa.
En même temps que la Coupe du Monde.
En même temps que la Coupe du Monde. Je pense aussi que c'était fait exprès également d'avoir les deux plus ou moins en même temps. Parce que...
Mais qui est déjà terminée, elle est plus courte.
Oui, c'est déjà fini, ça a duré une semaine.
Nicolas Pauline, aviez-vous connaissance
Alors moi je le savais parce que la radio avait été sollicitée pour pourquoi pas. Enfin moi j'avais proposé qu'on puisse peut-être commenter quelques matchs de c'était le Wurit.
Le Wurit, ouais, tout à fait.
C'était pas tout à fait possible, c'était compliqué. Puis ils avaient déjà des étudiants mobilisés sur le côté médiatique de cet événement, donc c'était un peu compliqué que Radio Campus puisse avoir sa place sur cet événement, mais on aurait bien voulu, nous. Hein,
ah, moi, je dis pas non, hein, commenter des matchs.
C'est le petit coup de gueule.
C'est un peu le temps que je veux faire, moi, donc commenter, je veux bien.
C'est le coup de gueule, parce que je comprends aussi que ça soit organisé depuis très longtemps et qu'ils avaient déjà prévu certaines choses, etc. Donc, c'est pas du tout un coup de gueule. Mais c'est vrai qu'on était au courant et qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose.
Peut-être mis au courant un peu tard. Voilà, moi, je vous avoue que j'ai eu connaissance de cet événement en même temps que la Coupe du Monde de rugby, alors que ça faisait des mois et des mois que c'était dans les starting blocks et même avant, puisque c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans.
J'en ai pris conscience la veille, je suis parti pour manger avec un pote de ma classe et je vois à côté de moi passer tout un groupe de gars baraques. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et je vois l'affiche à côté, je fais, ah d'accord, c'est bon, j'ai compris.
Alors, pour vous en dire un peu plus, le WURIT, donc c'est le World University Rugby Invitational Tournament. Alors, c'est plus
en anglais dans le texte.
C'est plus simple de dire WURIT. Alors, c'est une compétition internationale de rugby qui regroupe les plus grandes universités des hémisphères nord et sud. C'est un grand tournoi, comme je le disais, qui est organisé tous les 4 ans. Et cette année, c'était à Bordeaux. C'était Bordeaux l'hôte de cet événement. C'était la 3e édition seulement. Ça fait pas si longtemps que ça que ça existe. Et donc, c'était du 18 au 30 septembre sur le campus de Pessac, sur le site Rocancourt, pour être plus précis. Et nouveauté cette année, c'est qu'il y avait aussi les équipes féminines qui s'affrontaient.
Rugby à 7, il me semble. C'est ça.
Ouais. Exactement. Et alors, pour les gagnants, donc on l'a mentionné en off, mais c'est l'Université de Bordeaux qui a gagné. Mais, petite subtilité, pour les femmes. D'accord. L'université de Bordeaux était également en finale pour le côté masculin, mais malheureusement, ils ont perdu 17-20 face à l'équipe de Cape Town.
Ah, c'était serré.
Mais quand même, excellente performance pour l'université de Bordeaux. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que le facteur jouer à domicile, ça favorise les chances de gagner?
Là, quand même.
Bien sûr, parce que t'as le public.
Ah oui. T'as tout le monde derrière toi, et puis là, quand on voit les performances, on a les championnes et les finalistes ça joue à 3 points. Ça, franchement, je trouve sincèrement que ça ajoute quelque chose, quoi. C'est
au foot,
la notion de support du 12e homme, ouais, c'est ça, la notion du le joueur supplémentaire qui est le public, ça rajoute forcément quelque chose.
Et surtout, ils n'étaient pas dépaysés, c'était chez eux, quoi.
Alors, petite déception quand même pour l'équipe masculine, puisqu'elle a mené tout au long de la compétition avec le plus de points, mais malheureusement, ils ont dû s'incliner en finale. Donc, peut-être la revanche à venir dans 4 ans. En tout cas, moi, je trouve ça très très bien qu'il y ait ce type d'événement aussi pour les universités. Pour les jeunes, c'est tout aussi important que...
Ça montre aussi, et c'est bien de rappeler que les équipes françaises peuvent avoir des résultats, les équipes universitaires, parce que souvent, on montre du doigt le sport universitaire français, on dit que c'est pas comme dans les autres pays, il y a moins d'argent, moins d'équipement, etc. Mm. Et on se rend compte que quand même les résultats sont là.
Mm. Tout à fait, oui.
Et en tout cas, ça, c'est le résultat qu'on connaît. Qui sait en France le nombre de victoires qu'on a dû avoir à l'international, parce que là on parle juste là de ce qui s'est passé là il y a une semaine, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres trucs qu'on a gagné avant et personne n'en a connaissance, quoi. C'est tout.
C'est ça, c'est le sport universitaire et pas très médiatisé.
Non, parce que c'est le prisme de la popularité, tout machin, ça revient aux professionnels. Alors que pourtant, il y a des trucs qui se passent, quoi.
Mais nous, on en parle, et d'ailleurs, pour souligner à nouveau le fait que c'était quand même une sacrée compétition, on pouvait retrouver, comme en parallèle dans le monde du rugby professionnel, toutes les équipes un peu phares. Donc il y avait Nouvelle-Zélande, il y avait Cape Town, il y avait aussi l'université d'Oxford qui était présente, enfin toutes les grandes universités, toutes les grandes équipes, et c'est Bordeaux quand même qui était en haut du podium pour les femmes et sur la deuxième marche pour les hommes. Donc la parenthèse rugby est terminée, je vous propose à présent de passer au JO. Bordeaux
Campus Bordeaux.
Donc comme on l'a mentionné au début de ce sommaire pour cette émission, aujourd'hui je vous propose une discussion tournée autour des JO 2024 qui auront lieu cette année en France, à Paris notamment, mais pas que. C'est un événement très attendu, les places se sont arrachées, elles sont parties vraiment à des prix parfois exorbitants. Je connais pas de personne en vrai.
Il y a eu des prix à 1000 balles, des trucs comme ça, c'est impressionnant.
La cérémonie d'ouverture aussi.
Ouais,
la place la moins chère, c'est 2700 euros.
Juste la cérémonie d'ouverture, 2000
balles. Le long de la scène. Ouais.
En tout cas, c'est toujours un événement qui fait beaucoup parler, qui est très médiatisé, qui permet aussi aux pays d'accueil de rayonner d'une certaine manière. Ça fait très longtemps que la France n'a pas accueilli les JO. C'est vraiment un événement. Voilà. Très, 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 très longtemps. Première question, qu'est-ce que vous pensez du fait que la France accueille les JO 2024 pour l'été prochain?
Moi, personnellement, je trouve ça bien parce que d'un côté, il y a... Ça permet de remettre à neuf certaines structures. Par exemple, on le voit à Talence avec la piscine qui a été refaite, tout le centre d'athlétisme qui a été refait pour contribuer à l'entraînement des athlètes. Donc il y a certains côtés positifs. Après, il y a tout le temps des côtés négatifs. On va en parler. Ça va permettre de développer, comme on l'a dit avant, les sports aussi bien locaux que les sports universitaires et tout ça.
Donc plutôt positif pour Pauline. Et toi, Nicolas, qu'en penses-tu?
Bon, c'est génial d'avoir les JO dans son pays, parce que moi j'avais l'habitude de veiller très tard quand ça se passait à l'étranger, de regarder les compétitions la nuit, etc.
À 2h du matin.
Là, je vais quand même pouvoir dormir. Et donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce qu'on avait l'habitude que ça soit à Tokyo. Il y avait les JO de Tokyo il y a 4 ans.
Encore, c'était pas les pires ceux-là.
Il y a 3 ans.
Non, c'était il y a 3 ans parce qu'il y a eu le Covid.
Voilà,
mais c'était pas le pire.
Attends, le décalage horaire était costaud quand même.
Par rapport aux US où tu sais, à 21h pour eux, c'est 2h du matin ici. Là, c'était 6h, 5h, c'était un peu plus manageable, on va dire.
D'accord, mais bon, c'était pas
mais
toujours
après,
évident.
Mais après, c'est jamais agréable, mais bon.
Moi, j'ai plus suivi Londres que Tokyo.
Ça joue à 1h, c'est normal aussi.
Alors, moi, j'ai quand même suivi beaucoup parce que j'adore les JO en fait à suivre. Je trouve ça super. quand les commentateurs sportifs jouent enfin une bonne partition, ouais. Parce que c'est pas toujours génial, non. Ils sont pas toujours au courant de tout, c'est pas toujours des spécialistes de tous les sports.
C'est même pas forcément des journalistes sportifs à la base, donc du coup ils sont un peu perdus aussi.
Voilà, et puis non mais franchement moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Mmh. Les places, il y en avait quand même, mon frère, il a réussi à obtenir des places pour le tennis.
Il y a des matchs de foot à Bordeaux, je crois qu'il y avait des places à Marbella.
Ça sera Roland Garros cette année le tennis, ça va utiliser les cours de terre battue de Roland Garros.
De plus en plus,
il y aura comme deux Roland Garros l'année prochaine.
Il a payé combien sa place ?
Ça allait. Ils vont y aller en famille avec ses enfants et sa femme. Mais ils s'en sont pas trop mal sortis. C'est moins cher que Roland Garros.
Ah, c'est exorbitant, Roland Garros.
Parce que Roland Garros, c'est quand même ultra cher. Là, c'était quand même moins cher que Roland Garros. Mais il fallait s'y prendre énormément à l'avance. Il a déjà ses places. Alors que la compétition, ça sera au mois d'août 2024. Mm.
Mais les places, c'est moins cher, je crois que c'est 24 ou 25 euros. C'est plus on avance dans la compétition, plus ce sera cher.
Il
y avait des matchs, parce que le Bordeaux ici accueille des matchs de foot. Il y avait des places à 20 euros, mais c'était vraiment les places dans la 38e rangée de la 412e rue.
Mais il y avait une première phase de billets avec un tarif fixe qui était donc fixé à 24 euros, comme tu l'as dit, Pauline. Et ensuite, il y a eu la deuxième phase où ils ont mis d'autres places en vente pour d'autres phases de la compétition. Et là, les prix oscillaient quand même de 680 à 2700 euros.
C'est beaucoup.
Donc c'est vrai que ça fait très très cher. D'ailleurs, il y a eu une polémique autour de ça. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ou pas ?
Il n'y a pas que celle-là comme polémique, donc ça ne m'a pas choqué outre mesure.
Il
n'y
a pas que celle-là, je vais en énumérer quelques autres.
Ces polémiques-là, ça ajoute sur mon avis sur les JO, parce que personnellement, je trouve que c'est un immense cadeau empoisonné. Non, parce que c'est formidable d'avoir les Jeux Olympiques, c'est l'une des plus grandes compétitions sportives de l'histoire, mais au vu de tout ce qui s'est passé ne serait-ce que pour le basket, on allait nous filer l'endroit du salon de l'agriculture alors que le truc il est même pas grand, donc impossible de jouer au basket. Il y a aussi les histoires de prix qui pareil, c'est exorbitant.
Fait penser au système un peu américain, avec les prix qui augmentent de plus en plus en fonction de la demande.
Mais ça me surprend pas, en fait, ça m'a pas surpris, mais en tout cas ces Jeux Olympiques là, l'organisation c'est une organisation, c'est déjà ça. Mais je trouve que c'est formidable pour la France, mais c'est aussi une torture, ça l'est déjà, parce que tout n'est pas prêt, alors qu'on est à moins d'un an de l'échéance.
Tout sera prêt.
Ça m'étonnerait qu'il tout soit prêt.
Le village olympique,
il est encore en construction. Qu'il va y avoir encore des trucs à régler.
Je te parie que tout sera prêt. Alors tout sera peut-être pas parfait.
Je veux bien te croire,
mais je pense que tout sera prêt, parce que de toute façon, il faut dire qu'une ville qui accueille les JO devient une capitale mondiale. Paris sera la capitale mondiale du sport.
Sachant qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a d'autres compétitions qui s'est déroulée aussi. Ça fait 2 ans que la France a un peu le monopole là-dessus.
Je trouve que c'est super positif. Et puis comme tu disais, Pauline, pour les infrastructures sportives, c'est génial parce que ça permet d'avoir des financements pour créer des infrastructures soit qui n'existent pas, ou soit remettre au goût du jour, remettre
des
aux
trucs
normes,
un peu vieux,
des stades, etc., un peu vieux. Donc ça, c'est tout bénef, quoi.
Même pour l'économie, le tourisme, ça va attirer encore plus de monde. Bon, justement, ça fait beaucoup discuter, parce qu'il y en a qui vont en profiter sur Airbnb, sur des locations. Ça, c'est un autre sujet.
Ouais,
mais par exemple,
pour les restaurateurs, pour les hôtels et tout machin,
ça va être un bon économique, ça va être dingue.
Je suis pessimiste quand même.
Et puis en parlant de pessimisme, moi je trouve pas ça très approprié de la part des médias qui mettent de l'huile sur le feu, comme on dit.
C'est les spécialistes.
En fait, c'est les spécialistes. En disant est-ce qu'on sera prêt, est-ce qu'on sera pas prêt.
En fait, c'est un débat stérile. Soit ils survendent la compétition, soit ils la dénigrent. C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est soit ils la survendent, soit ils sont en train de la défoncer. Donc il n'y aura jamais un entre deux.
Mais c'est vrai que peut-être pas, peut-être pas s'alarmer sur est-ce qu'on sera prêt ou pas, parce que en tout cas, quand ils invitent des organisateurs et des gens qui sont responsables des chantiers, etc., ils se montrent toujours rassurants, disant qu'effectivement c'est pas un chantier facile, mais que c'est tout à fait dans nos cordes. Enfin, d'autres pays l'ont fait. Il n'y a pas de raison que la France n'y arrive pas. On a tout à fait les moyens.
C'est juste les procédés qui font polémique.
C'est ça.
Et Rio, ils ont été capables, donc on sera capables.
Et le Rio, c'était un sacré chantier, ça a été très, 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 très compliqué.
Rio, c'était un bordel.
Jusqu'au dernier moment,
ils se sont endettés énormément. Mmh.
Ils se sont endettés énormément. Et justement, en France, on a cette démarche de récupérer des infrastructures qui sont déjà là. On ne va pas tout construire de zéro.
On fait du recyclage.
Il y a ça aussi, qui est pris en compte. Et puis, si on prend l'exemple de la piscine de Talence, au final, elle est prête. Elle est faite.
Depuis septembre.
Elle a été rénovée, elle est ouverte. Donc, c'est plutôt positif de voir que les chantiers, en tout cas, semblent ouvrir peu à peu aux dates qui étaient prévues.
On ne parlera pas ici de la piscine universitaire.
Non, on ne parlera pas de la piscine universitaire. Non,
laquelle
De quoi piscine tu dis? Non.
On aura l'occasion de l'énoncer de nouveau dans les futurs sports.
On aura temps de la mentionner, ouais.
Voilà, elle est fantomatique, c'est un mythe.
Non, c'est une légende, elle est là, mais on ne sait pas si elle est vraiment là.
On a dit qu'on n'en parlait pas, et on en parle quand même.
Voilà.
On peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, en parlant d'autres polémiques concernant les JO, c'est le recours aux bénévoles qui est...
Volontaire Paris 2024, ça, voilà. C'est drôle ça.
Avec un sacré nombre de bénévoles, de jeunes notamment. Alors la carotte au bout du bâton, ce serait que ça pourrait pérenniser un certain nombre d'emplois, ouvrir à la formation, à certains jobs spécifiques. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, un événement qui a besoin de beaucoup de main d'œuvre, où ça va être jour et nuit avec des bénévoles qui seront sursollicités. C'est vrai que la question du est-ce que... on devrait payer les gens ou pas, ou est-ce que c'est une chance pour le bénévole aussi de participer à la construction des JO? Quel est votre point de vue? Comment vous voyez
C'est la procession de chacun.
Le bénévolat, c'est très bien, mais pas pour des événements comme ça. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait des bénévoles, mais à des tâches, secondaires, voire subsidiaires. En fait, le problème, c'est que là, on va exiger de bénévoles des choses comme s'ils étaient salariés. Et on ne peut pas exiger quoi que ce soit d'un bénévole. À Radio Campus, nous, on propose des choses aux bénévoles, ils viennent pas. Hein. Mais je veux dire, on n'exige jamais rien. On ne dit jamais à un bénévole, toi, la semaine prochaine, tu fais ça. Je veux que tu fasses ça. Là, c'est ce qui va se passer. Malheureusement, c'est que c'est du bénévolat au service. Et donc, c'est là que ça me gêne un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travestir du bénévolat en travail salarié non rémunéré.
Après, c'est des emplois déguisés sous la forme de bénévolat.
Exactement.
Après, on a retrouvé ce système de bénévolat pour la Coupe du Monde de rugby. Par exemple, je connais des bénévoles qui ont aidé au Matmut. Ça s'est très bien passé.
Mais là,
c'est un autre, c'est une autre ampleur. C'est tellement de sport. C'est tellement énorme.
Ouais. Non, c'est sûr que là, moi en plus je m'étais inscrit et j'essayais de m'inscrire pour faire ça. Déjà rien que pour s'inscrire, ça prend une éternité. Tu dois répondre à un tas de questions, c'est hyper long. Et puis à partir du moment où tu as répondu à toutes ces questions, tu as une liste de possibles trucs à faire. Tu es là, mais c'est quoi ce délire?
Ça manque d'organisation.
C'est quoi les questions?
Il y avait des trucs. Attends, je me rappelle plus très bien.
Il n'y a pas quand même. Est-ce que vous avez fait un voyage en Syrie dernièrement? Il n'y a pas ce type de questions.
Pas de souvenirs, non. Mais il y avait des trucs un peu du style. Est-ce que vous avez vraiment tout plein de questions sur toi, sur comment envisagez-vous les JO? Est-ce que vous avez regardé les anciennes compétitions?
Entretien d'embauche. Quoi.
C'est ça. C'est clairement un entretien d'embauche qui dure une heure parce que du coup, c'est à plusieurs types de questions qui sont dirigées en différentes parties. C'est hyper long.
Arrête avec cette bouteille.
Pardon. Mais en tout cas, c'est une inscription qui dure 2 siècles. Et pour une récompense qui n'en est pas une, en fait.
Et pour parler de la dernière polémique, alors c'est pas la dernière polémique, mais on va pas faire une émission spéciale polémique, mais juste je voulais citer...
Non, parce que ça reste très positif d'avoir les
JO. Oui, tout à fait. Mais je profite du fait qu'on est quand même Radio Campus, on est situé sur un campus universitaire, de parler de cette petite polémique qui a eu lieu où les JO voulaient réquisitionner des chambres d'étudiants pour l'organisation des Jeux Olympiques. Ça a fait beaucoup de bruit. Alors il faut contextualiser quand même, donc ils veulent réquisitionner des chambres du Crous. C'est pendant l'été, il faut quand même dire que la plupart des étudiants rentrent chez leurs parents. Donc,
mais pas tous. Attention.
Pas tous, mais il y a à peu près 30% de logements vacants disponibles sur Paris, sachant qu'il y en a 22 000 au total et qui voudraient réquisitionner à peu près 3 000 logements. Donc en théorie, ça semble faisable. Là où ça a fait beaucoup débat, c'est qu'apparemment, il y aurait eu une sorte de chantage avec les étudiants. Pauline,
est-ce que vous avez lu la lettre qui a été adressée aux étudiants? Moi, je l'ai lue et il y a plusieurs
en fait, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui peuvent se sentir comme avec un couteau sous la gorge. Mmh. Et si on lit juste linéairement le texte, il dit juste si vous voulez, c'est sur le volontariat de laisser les chambres. S'il y a de la casse, s'il y a quoi que ce soit, ce ne sera pas à vos frais. Après, justement, comment l'État va mettre en place tout le système de réparation et d'entretien, ça, on ne sait pas, il n'y a pas de détails. Mais le principe est sur le volontariat. Et si tu veux dire non, tu dis non. Si tu veux faire autre chose de ton logement, tu fais autre chose que
de c'est
ton
pas logement. Des réquisitions.
C'est pas une réquisition. Non. C'est pas comme une réquisition obligatoire. Mmh. Là, c'est vraiment sur le volontariat.
C'est pas comme s'il y avait des mecs qui allaient débarquer pour te virer de là pour placer un athlète, non.
Et ça évite d'avoir à construire de nouveaux logements. Ouais. Encore plus de trucs qui vont être pas utilisés ou d'autres qui vont râler parce que les impôts sont utilisés à mauvais escient selon eux. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative pour la durabilité du projet.
C'est la prestation de chacun.
Moi, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. D'ailleurs, ça se fait hein, que le Crous loue des chambres l'été pour des événements. Nous, par exemple, on en a bénéficié l'an dernier quand on a accueilli l'Assemblée Générale de toutes les radios campus de France. Donc, c'est vrai que
ils étaient logés par le Crous.
Ils étaient logés par le Crous, moyennant finance. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un peu une polémique.
C'est polémique pour faire polémique.
Là, on parle beaucoup des punaises de lit. Vous en avez entendu.
Breaking news.
Voilà. Donc en ce moment, c'est là, tous les médias parlent des punaises de lit. C'est monté en épingle très rapidement. Là.
Sans compter les dingueries que certains ont dit.
Et aux États-Unis, il y a CNN qui a fait un reportage sur les JO et sur les punaises de lit.
Mais c'est pour ça que l'État a enfin réagi. Parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait plus personne qui vienne aux JO.
Ils ont soit peur, qu'Emmanuel en fait, Macron a dû s'exprimer sur les punaises de lit.
Il a dû dire un truc, ouais.
Tout le monde ça
fait flipper. Et tout le monde a peur. Ça fait flipper. Hein.
Alors, les punaises de lit, c'est quand même 20% d'augmentation chaque année en France. Donc, c'est pas rien.
Après, c'est pas comme si c'était pas grand-chose.
C'est pas un épiphénomène. Mais,
Là,
je veux dire, c'est l'actu du moment. On fait peur encore. Les médias font peur encore une fois. Tout le monde a peur des punaises de lit. Il y a des arnaques énormes en France sur les punaises de lit parce qu'il y a plein d'entreprises.
Avec les dératiseurs.
Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas habilitées, qui n'ont pas les bons traitements, etc., pour supprimer les punaises de lit, qui sont très difficiles à supprimer. Donc voilà.
Changer de matelas.
Alors, ça ne suffit pas parce qu'elles sont aussi dans les textiles à la maison. Enfin bon, voilà, bref. Nous, on ne va pas rajouter de la peur. Il y en a toujours eu.
Il a fallu que ça devienne une discussion internationale pour que le gouvernement se dise...
Alors, attention, alors là, on associe déjà Paris 2024 aux punaises.
C'est un peu loin. C'est quand même un peu loin.
C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tout va être Paris 2024.
C'est ça. Ouais. Le moindre truc, ça va être associé à ça. Est-ce que ça va pouvoir maintenir les mêmes...
Il y a tellement d'enjeux. Il y a tellement d'enjeux, comme on a dit.
Ça fait tellement peur.
Moi, j'ai jamais eu de punaise de lit, personnellement.
Moi non plus.
Ouais.
Encore un mythe médiatique.
Alors, ça existe, mais pas à Radio Campus.
Pas
évidemment.
Chez nous, voilà.
Peut-être dans les chambres du Crous.
Il y a eu des cafards.
Après, il faut le prendre en compte. Hein, les punaises de lit, c'est un enfer quand on en a. On est piqué de partout et puis on pense qu'à ça. Et psychologiquement, c'est très difficile de vivre avec, en sachant qu'on va être piqué. C'est pas un truc génial.
T'imagines t'être faire piquer partout.
Pourquoi associer ça à Paris 2024? Je trouve ça un peu abusé. Sachant qu'il y a eu pas mal de JO qui ont été organisés, par exemple à Atlanta aux États-Unis, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et eux, ils avaient le pic des punaises de lit à ce moment-là.
Après, peut-être que ça permet d'éviter de parler de certaines informations.
C'est ça. C'est
l'arbre qui cache la forêt.
Et après, et entre Atlanta et Paris, il y a quelques années qui sont passées aussi.
La diversion
des punaises françaises.
Les punaises françaises sont célèbres aussi maintenant dans le monde. Attention, les gars, on arrive.
Elles se préparent pour les JO, les punaises.
C'est ça, exactement. On va gagner la médaille d'or aussi là-dessus.
Et dernière question à propos des JO. Est-ce que, pour le coup, vous avez plus d'attentes que d'habitude par rapport aux athlètes français et leurs performances?
Moi,
j'attends l'équipe de handball masculine et féminine.
C'est l'équipe de basket des gars. S'ils ne la gagnent pas maintenant, c'est terminé.
Il faut regarder ce qui s'est passé au Japon. Par contre, je t'ai coupé la parole. Mais ce qui s'est passé au Japon, c'est assez symptomatique de ce qu'on peut peut-être envisager de vivre ici, peut-être, et on espère. Au Japon, dans plein de sports, les Japonais n'avaient jamais de médaille. Et le fait que les JO se passent à Tokyo, ben, se sont sublimés. Il y avait aussi énormément d'engouement public dans les stades, etc. Et ils ont eu un nombre de médailles record qu'ils n'avaient jamais eu. Et ils ont eu des médailles d'or dans certains sports, ou même d'argent ou de bronze.
Ils n'ont jamais performé.
C'est ça. Donc oui, ça existe, cette espèce d'engouement.
L'engouement national. Ouais.
National, etc. Pour autant... Le championnat du monde d'athlétisme nous a fait un peu redescendre.
Une parce médaille que, d'argent à la toute fin.
On n'est peut-être pas prêt dans tous les sports. Alors on espère que ce regain de populaire va faire en sorte qu'on va avoir peut-être plus de médailles. On verra.
Ouais.
On verra.
Toi, tu misais sur le hand.
Moi, j'ai hâte de voir le handball masculin, féminin.
On est déjà fort. Après, c'est un fin de cycle.
Ce serait encore plus décevant qu'on est tout le temps fort et qu'on gagne pas l'année où c'est en France.
Surtout, ça va permettre de médiatiser certains sports qui sont mis de côté.
Oui.
Moi, j'attends aussi beaucoup l'escrime.
Avec Romain Cannon, ce qu'il a fait là, c'est incroyable.
J'attends le surf. Qui va se jouer sur nos îles.
À Tahiti.
Ouais. À Tahiti.
J'attends le karaté. Ah non, le karaté n'est pas.
Ah non, non, maintenant ça dégage, c'est le breakdance.
On n'a pas parlé de la polémique du karaté, c'est vrai.
On a un champion olympique.
Et le seul et unique champion olympique français.
Attends,
de karaté.
Il peut même pas défendre son titre à Paris 2024. On va pas reparler de ça, mais moi.
Peut-être qu'il portera la flamme, on ne sait pas.
Mais il y a le breakdance.
Il y a le breakdance.
Son entrée au JO.
S'il porte la flamme, c'est bien.
Oh, la maigre consolation, t'as gagné une médaille d'or, tiens, tu prends la flamme maintenant. Ah, c'est moche. Moi, j'attends le basket, moi.
Ben, en tout cas, on arrive au terme de cette discussion. Un grand merci à la fine équipe, à Louis, Nicolas et Pauline d'avoir participé à cette
aussi.
Émission.
Ben, merci, Mélissa.
Ben, merci beaucoup. Alors, pour la semaine prochaine, rendez-vous même heure à 13h pour un nouvel épisode de Sport Campus. Semaine prochaine, on se retrouve avec un invité. Il s'appelle Warren. Il nous parlera notamment de son parcours sportif et de sa transformation dans sa vie à travers le sport et l'alimentation. Ce sera l'occasion de revenir sur plusieurs choses, peut-être des bases, des essentiels, notamment sur le sport bien-être et le sport du quotidien.
Des conseils aussi.
Et puis, vous serez présents également la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en discuter ensemble.